BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. Frédéric Simotel.
Bonsoir, bienvenue dans Tech & Co. Nous sommes ensemble de 20h à 21h30. Beaucoup de sujets ce soir. Et tiens, on va parler d'Apple. Apple qui nous fait un one more thing un peu avant, puisque sa grande conférence développeur sera le 10 juin. Eh bien, Apple prépare peut-être un robot. Je dis peut-être parce que c'est une rumeur encore qui est arrivée par le biais de Bloomberg et Mark Gurman, qui sont l'un de ces journalistes vedettes qui connaît bien cet univers Apple. Et nous en parlerons avec nos débriefeurs. On parlera aussi de ces tragiques tremblements de terre à Taïwan, parce que justement, Taïwan, on en parle souvent ici dans Tech & Co, c'est le cœur de l'usine industrielle, de l'usine des semi-conducteurs. Et justement, ce tremblement de terre pourrait peut-être faire trembler aussi tout le monde économique, le monde de la technologie. Et nous allons en parler avec nos débriefeurs. Et puis, deuxième partie d'émission, on parlera de VivaTech. C'est la 8e édition cette année, sans doute placée. Et on verra avec son directeur général sous le signe de l'intelligence artificielle. Et puis, on verra tous les nouveaux invités. Souvenez-vous, c'était Elon Musk l'année dernière. Qui seront les invités vedettes cette année? On en parlera avec le directeur général. Restez avec nous, 20h, 21h30, Tech & Co Business sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, le débrief de la tech ce soir avec nos spécialistes. Zoé Meul, bonsoir.
Bonsoir.
Zoé, associée chez Balderton Capital. Enguerrand Renaud, bonsoir.
Bonsoir.
Enguerrand, consultant chez Image7 et ancien journaliste dans de nombreux médias, les plus prestigieux, Presse écrite, Le Figaro, Le Monde, Les Échos. Enfin voilà, on t'a lu partout pendant des années. Aujourd'hui, tu conseilles les entreprises chez Image7. Et puis, à distance, Bruno Guglielminetti. Bonsoir, Bruno. Merci d'être avec nous. Donc, tu es à Québec, journaliste animateur de Mon Carnet de l'actualité numérique. Je vous le conseille, hein, même si Bruno est loin. Déjà, c'est en langue française, donc c'est plus facilement accessible pour nous francophones. Et puis, il y a plein d'infos intéressantes. En plus, avec ce regard de continent nord-américain, toujours en particulier, et ce double regard, celui de Bruno, qui connaît bien l'actualité et qui a toujours aussi cette petite touche que l'on aime bien, et que l'on aime bien notamment ici chez Tech & Co. Alors ce soir, on va parler, je l'ai dit, d'Apple qui préparerait de la robotique pour la maison. Alors est-ce que c'est le one more thing un peu en avance par rapport à la WWDC? On va parler aussi, vous savez, c'était la AWS Summit il y a quelques jours. François Sorel y était, c'était hier, il y était. Et puis AWS en a profité pour annoncer son nouveau service Bedrock avec plein d'IA. Il y a du Claude 3, il y a du Mistral, il y a du Stability. Enfin voilà, c'est une plateforme. On va essayer de comprendre un peu ce que fait AWS dans le domaine. Et puis on aura évidemment ce tremblement de terre à Taïwan, qui est assez tragique, évidemment, mais bien le monde économique et le monde de la tech s'inquiète, parce que vous le savez, évidemment, tous les grands fondeurs de semi-conducteurs sont là-bas. TSMC a arrêté plusieurs centaines d'usines. Donc, voilà, ça inquiète aussi, alors à la fois pour les pertes humaines, évidemment, mais aussi les pertes économiques. On va revenir aussi sur le levée de fonds. Et oui, le levée de fonds, ça cale un peu. Si vous étiez à l'instant Guillaume Paul, eh bien, vous avez entendu ça. Oui, on a du mal, mais pourtant, on a une belle start-up qui est avancée, elle s'appelle Pigment. Vous la connaissez peut-être, ça avait été notre révélation des BFM Awards cette année. Pigment qui vient de lever, enfin qui passe licorne en levant combien ?
145.
145, j'allais dire 200, mais c'est 145.
Mais au total, quasiment 400.
Oui, oui. Et puis avec son étonnante, sa pétillante PDGère et fondatrice. Et puis on parlera, si on a le temps, on parlera des 20 ans de Gmail. Et oui, 20 ans déjà, vous rendez compte, alors qu'on a l'impression de l'utiliser au quotidien depuis quelques années, ça fait déjà 20 ans que nous utilisons tout ça. Allez, on démarre avec Apple et la robotique. Qui démarre? Enguerrand, on a été un peu surpris. Donc, on rappelle, WWDC, donc la grande conférence développeur d'Apple, c'est le 10 juin. On a eu l'annonce. On verra, on imagine qu'il y aura beaucoup d'annonces autour de l'IA. Et puis là, on s'étonne un peu parce que c'est vrai que j'ai fait un petit bilan tout à l'heure. Je me disais, l'Apple Car, bon, qui était un échec, mais en même temps, on n'en parlait pas vraiment. On savait
oui,
pas
mais
trop.
Ça peut revenir.
Voilà, ça peut revenir.
En tout cas, ils ont misé beaucoup et ils ont dit qu'ils l'abandonnaient.
Provisoirement, c'était mis de côté. On estime qu'il y a un certain retard en intelligence artificielle aussi par rapport au Apple, au Meta, par rapport au Google, par rapport à Microsoft.
Et ça, c'est plus qu'une estimation, puisqu'il a confié à Google de mettre le moteur de recherche et l'intelligence artificielle dans les smartphones.
Voilà, le décollage difficile du casque Vision Pro. Bon, oui. On sait qu'il y a plein de technologies, mais on voit quand même que même les plus passionnés se disent oui, c'est sympa, mais la concurrence à venir sur les magasins d'applications avec le DMA hein, qui permet à d'autres sociétés. On a vu les Epic, les Sony, les Microsoft qui sont en train de se poser des questions autour des, et ça ferait des revenus en moins pour Apple. Les processeurs, bien oui, Apple a ses propres processeurs, mais il y a une grosse bataille aussi derrière tout ça, surtout autour de l'IA. Le marché chinois qui doit représenter le levier de croissance pour Apple, et ça se complique. Hein. Il y a une grosse concurrence aussi là-bas. La succession de Tim Cook, à laquelle il faut penser aussi. Et puis voilà, depuis le 1er janvier, l'action a perdu 11%. En bourse, ça fait 330 millions de dollars qui se sont comme ça évanouis. Bon. Ça reste quand même la première capitalisation ou la deuxième avec Microsoft, deuxième capitalisation mondiale boursière et voilà avec toute la réussite autour de l'iPhone. Mais voilà, on a donc Marc Gourman, journaliste très bien informé souvent de chez Bloomberg, qui nous dit. Eh bien, figurez-vous qu'Apple préparait peut-être un petit robot. Alors, pas un robot humanoïde, hein,
un robot domestique.
Voilà, un robot compagnon.
Non, mais le vrai problème, c'est qu'Apple est en panne de croissance. On l'a vu sur les résultats de l'année 2022-2023, parce qu'ils sont un petit peu décalés. C'est une panne de croissance. Là, le premier trimestre qui s'est terminé en décembre, les ventes d'appareils sont stables. Il n'y a que les services qui progressent. Et les services risquent d'être un tout petit peu perturbés par l'application du DMA, du moins en Europe. Donc ils ont un problème de croissance. C'est un énorme problème de croissance. Et Apple a toujours réussi à trouver des relais de croissance. Smartphone est un relais de croissance, voilà. Les services, le streaming musical et autres. Et là, aujourd'hui, c'est un peu le troisième étage de la fusée qui manque, quoi. Tu l'as dit, la voiture, ça sera pas ça. L'intelligence artificielle, qui est le relais de croissance pour tout le monde, sauf pour Apple. Et l'annonce, si toutefois elle est confirmée dans les prochains jours par Tim Cook, elle laisse un peu sur sa fin. On va quand même pas dire. Enfin, Apple, c'est qu'il nous a habitués à ce qu'on appelle des projets moonshot.
C'est-à-dire justement.
La robotique domestique. Personnellement, ça me fait pas rêver.
Oui, non, ça nous fait pas rêver. Justement, on va écouter ce qu'en disait Anthony Morel, notre spécialiste, l'un de nos spécialistes tech et geek, que vous retrouverez d'ailleurs ce week-end. C'est lui qui anime De quoi je me mail. Anthony Morel, on l'écoute. Il était dans la matinale de BFM Business. Voilà ce qu'il disait ce matin même, alors qu'on venait d'apprendre justement qu'Apple travaillerait sur la robotique. Et lui aussi, je crois qu'il n'est pas très impressionné.
Deux modèles sur lesquels travaille Apple. Le premier, ce serait un écran robotisé qu'on pourrait poser sur un bureau, par exemple. Les premières versions testées seraient notamment capables d'imiter les mouvements de la tête de votre interlocuteur en visioconférence. Ouais. Donc votre interlocuteur hoche la tête, le robot hoche la tête aussi. Bon, pourquoi pas, on verra. Et le deuxième modèle, c'est un robot mobile capable de suivre les utilisateurs partout dans la maison.
Ah, c'est un peu R2-D2.
C'est un peu ça, exactement. Moi, ça me fait penser, alors on n'a pas encore toutes les infos, hein, c'est encore très parcellaire parce que c'est vraiment le début du projet, mais à ce qu'a présenté Samsung lors du CES de Las Vegas, un petit robot qui s'appelle Bully, qui vous suit partout et qui peut, par exemple, projeter un écran sur n'importe quel mur, jouer avec un animal de compagnie, chercher un objet que vous avez perdu dans la maison. Ça pourrait être ce genre de fonctionnalité. Ce qui est sûr, c'est qu'Apple a près de son campus de Cupertino un laboratoire secret qui ressemble à l'intérieur d'une maison où il teste toutes ces innovations. Il a recruté des spécialistes en robotique. Il y a une équipe de chercheurs en intelligence artificielle qui travaille sur le projet. Et ce projet, il est finalement assez cohérent avec la stratégie de diversification d'Apple. Vous savez qu'ils essayent de trouver des nouveaux relais de croissance à côté de l'iPhone. Effectivement, il y avait ce projet de voiture. Bon, ils ont abandonné. Eh bien, ce nouveau projet industriel, ça pourrait être assez logique finalement dans les plans d'Apple. La direction a annoncé à ses cadres que l'entreprise allait se focaliser sur 1. La réalité mixte avec l'Apple Vision Pro et 2. Sur la maison, énorme marché potentiel, mais sur lequel Apple ne sera pas le seul, puisque au-delà de Samsung, dont on parlait à l'instant, on a aussi des entreprises comme Amazon ou Tesla, avec son robot Optimus, hein, qui travaille aussi sur la notion de robot domestique.
Avant de revenir avec nos débriefeurs ici, Bruno Guguel Minetti, tu es à Québec. Qu'est-ce que tu penses un peu Est-ce que tu trouves cette stratégie cohérente, comme le dit Anthony Morel? Tu trouves ça un peu décevant, comme on vient de le dire ici, comme vient de le dire à Enguerrand? Quel est ton regard?
Disons que c'est surprenant, mais de l'autre côté, et comme le disait mon collègue panéliste tout à l'heure, Apple est à la recherche d'une troisième partie de sa fusée pour continuer sa montée. et ils doivent trouver quelque chose. Et il faut garder en tête que dans l'expérience automobile, bon, qui a quand même pris 10 ans de vie et de financement chez Apple, ça a quand même donné des choses. Hein. Tout ce qui est autour du Vision Pro, ça a été développé à l'époque lorsque les équipes de Apple cherchaient à embarquer l'AR et le VR à l'intérieur de l'habitacle de la voiture.
Il y a réalité beaucoup virtuelle de cette recherche-là. Et réalité augmentée, je précise.
Exactement, ouais. qui a permis de bonifier l'expérience du Vision Pro. On peut imaginer qu'il y a d'autres technologies qui ont été développées dans ce contexte-là. Et puis, sachant et regardant les embauches qui ont été faites dans ce domaine-là, moi, j'ai l'impression qu'il y a des efforts, il y a un intérêt de ce côté-là. Mais comme le disait précédemment mon collègue, il y a quand même Amazon qui est dans le domaine et qui fait pas vraiment bien. Et dans le cas de Bali, de Samsung, c'est la deuxième fois que Samsung arrive avec ce produit-là et il n'est pas encore sur le marché. Oui. Alors moi, j'ai bien hâte de voir, est-ce que les gens sont prêts à avoir des petits robots personnels qui vont les suivre comme des R2-D2 dans le quotidien? C'est pas donné. Mais ça ne me surprendrait pas qu'il y ait de la recherche et du développement qui se fasse. Ils ont quand même une bonne caisse dans laquelle ils peuvent aller piger pour financer de la recherche et du développement. Alors oui, ça peut être une piste, mais il faudra voir à moyen terme. Et de toute façon, comme tu disais, Frédéric, au mois de juin déjà, on va avoir peut-être certains sons de cloche là, avec ce qui sera présenté aux développeurs.
Zoé, ouais, je suis assez d'accord. Amazon serait peut-être le candidat le plus qui nous viendrait à l'esprit en premier, puisqu'il y a Alexa, donc on peut mettre un robot avec Alexa, ce qu'ils ont essayé de faire avec Astro, je crois que c'était en 2021. Je ne sais pas si c'est un flop, mais en tout cas, ce n'est pas une réussite. C'est-à-dire qu'on peut l'acheter que c'est on demand. Donc, on demande.
Et on n'est pas encore habitué, tout simplement.
Le robot est produit et ensuite il est livré. Et le leadership de cette équipe-là n'est pas très stable. Il y a des personnes qui sont parties récemment, fin d'année dernière. Donc, pas certaine de voir un succès d'un robot de maison qui sait faire plein de choses différentes. Mais par contre, ça revient un peu à la question de l'IA. Comme on l'avait envisagé au début.
L'assistant personnel.
Ouais, l'assistant. Enfin non, j'allais dire l'IA physique, c'est-à-dire robotique, oui. Qui fait des. En fait, c'est beaucoup plus complexe de créer un robot que de créer un LLM. Et ça, on s'y attendait pas. On pensait que l'IA allait d'abord révolutionner le monde des cols bleus avant de révolutionner le monde des cols blancs. Ça s'est fait de la manière opposée, en commençant par les créateurs, créatrices de contenu. Donc c'est un peu. Mais là où ça fonctionne aujourd'hui, c'est dans des tâches répétitives, spécifiques, pas vraiment dans le côté génératif.
Mmh, oui.
Donc, je ne le vois pas pour l'instant, mais peut-être pour des tâches très spécifiques.
Après, comme le dit très bien Bruno, c'est les rumeurs, parce que ce sont encore des rumeurs, hein, c'est pas Apple qui a annoncé on va lancer un robot, c'est Mark Gurman, donc qui est toujours bien informé, mais peut-être voilà, il a réussi en fouillant quelques dossiers, il s'est dit tiens, ils sont en train de bosser dessus, et c'est
souvent,
peut-être
Apple laisse des indices.
Oui, en plus,
faut quand même le savoir, tu les suis depuis suffisamment longtemps, tu sais très bien, tu te souviens une fois il y avait un nouveau modèle de smartphone qui avait été oublié par hasard dans un Starbucks. Qu'il me semble. Enfin, voilà, ou dans un autre restaurant.
On a pas vu si un smartphone pliant avait été oublié, pas encore.
Ce qui m'intéresse, et quand on suit la tech, ce qui est toujours intéressant, c'est l'usage. L'usage. C'est-à-dire qu'un smartphone, l'usage, en quelques mois, la Terre entière voulait un smartphone. Mmh. On l'a vu avec ChatGPT, en quelques semaines.
Tout le monde voulait
prompter. 100 millions de personnes ont prompté sur ChatGPT. Quand l'usage est là, le marché se développe à une vitesse grand V. La robotique domestique, l'usage, et ça fait longtemps, hein, on l'a vu, il l'a dit.
On avait mis des Français, Amazon, des Français ont lancé aussi leurs produits.
Aldébaran, chez Aldébaran, par exemple, il n'y a pas d'usage. Enfin, franchement, qu'est-ce qu'on va faire?
Il y a des usages, toujours des usages dans la santé, maison. Mais. Voilà, alors pour des enfants parfois qui ont des particularités, des enfants autistes, on en parle dans ce domaine-là, dans des angles très précis. Mais c'est vrai que même à la maison, et je pense que quand Zoé parlait tout à l'heure, je veux dire, on n'est pas encore bien habitué non plus à parler à nos enceintes. Enfin, c'est pas encore dans notre façon d'être.
Mais moi, je me rappelle quand Alexa est sortie, je vivais aux États-Unis à l'époque, mais c'était pareil ici. Le fait qu'on puisse parler à Alexa, c'était une révolution en tant que telle. Je pense. Pour revenir sur ton point, je pense pas qu'ils vont s'atteler à un petit marché Non, je pense qu'ils vont chercher un gros marché, mais par contre, il va falloir que ce soit une tâche spécifique et répétitive. Donc, je ne sais pas trop. Ça réduit les options, quoi.
Bruno, toi, tu en penses quoi? Et notamment autour de l'IA, parce qu'on sait que depuis le départ de Goodwill en 2022, qui était l'une des têtes pensantes de l'IA chez Apple, il n'a pas vraiment été remplacé. Là, on voit que Johnny Ive, il a drainé pas mal de monde. Il signe avec OpenAI, il a drainé pas mal de gens de l'IA. On sent que Apple est un peu à la recherche aussi de ses cerveaux, parce que ça vient de là aussi. Il ne s'agit pas d'avoir des équipes et des milliards. Il faut aussi les quelques-uns qui pensent un peu plus vite que les autres. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
C'est intéressant parce que ça me permet de ramener le fait qu'on a l'impression qu'il y a toute une couche d'exécutifs chez Apple qui ont pris leur retraite, qui sont partis. Un peu comme s'ils se disaient, les bonnes années sont passées et puis on laisse la chance à une nouvelle génération de créer quelque chose. Et on les voit partir chacun de leur côté en train de démarrer leur propre service ou sinon d'aller travailler avec d'autres organisations. Et j'ai l'impression que, puis de toute façon, ça a déjà été dit ce soir, j'ai l'impression qu'Apple est vraiment à la recherche du next big thing et ça va se faire dans la recherche et dans le développement. Et là, on est un peu en train de tirer un peu partout. Là, malheureusement pour eux, Bloomberg vient de mettre la main sur des informations. Alors, on parle de ça, mais j'ai l'impression qu'on va devoir encore attendre une bonne année facilement avant de commencer à avoir des vraies rumeurs sérieuses sur un produit qui potentiellement pourrait être intéressant. Mais effectivement, on doit d'abord et avant tout tabler sur une demande, un besoin. Quand Steve Jobs est arrivé avec l'iPhone, les téléphones intelligents existaient déjà. Il y avait des Trio, il y avait des Nokia. Ils n'étaient pas aussi évolués, on s'entend. Il y avait des BlackBerry. Il a amélioré l'expérience. Mais là, il faut regarder autour de soi qu'est-ce qui reste à améliorer et on peut déjà avoir des pistes.
On sentait qu'il y avait on ne savait pas identifier ce besoin. C'est vrai qu'on utilisait tous des BlackBerry, des Nokia, des téléphones Alcatel. On téléphonait, on envoyait des messages. On avait encore du mal à voir le besoin. Puis bon, là, on l'a rapidement évoqué. Alors, on a fait le tour de ce sujet-là. Je voulais aborder un autre sujet important. Donc, tragiquement, il y a quelques jours, il y a eu un tremblement de terre donc à Taïwan. On a vu toutes ces images assez sidérantes. Il y a malheureusement eu quelques morts. Alors, il y avait une alerte au tsunami. Enfin, voilà, il y a tous ces événements tragiques. Et puis, évidemment, Taïwan, c'est aussi beaucoup d'industries, notamment dans le domaine de la fonderie, de la conception de circuits intégrés, de l'assemblage, de tout ça, l'encapsulation. Et là, on voit, TSMC le premier a dit, nous, on va fermer plusieurs centaines d'usines. C'est pas plusieurs centaines, plusieurs sites, quelques chaînes d'assemblage. Non, c'est plusieurs centaines d'usines pour justement protéger nos ouvriers, voir un peu, évaluer un peu les dégâts ou les potentiels dégâts ou ce que pourrait arriver. Et là, du coup, ça tremble un peu, Enguerrand.
Oui, on ne se rend pas compte de la dépendance du monde vis-à-vis de cette toute petite île de Taïwan, plus de 55% de toutes les puces de tous les semi-conducteurs qui sont partout, dans ce studio, il y en a absolument partout, sont fabriqués à Taïwan. Et 90%, c'est juste énorme, des puces les plus avancées, celles qui sont en dessous de ce qu'on appelle 10 nanomètres. Oui. Et toutes les puces de Nvidia, première ou deuxième capitalisation mondiale. Nvidia, c'est le moteur de l'intelligence artificielle, mais ce moteur ne fonctionne qu'avec les puces Nvidia qui sont elles-mêmes fabriquées par TSMC à Taïwan. Quand on voit l'impact économique, le tremblement de terre économique qu'il y a eu de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on se dit que quoi qu'il puisse arriver à Taïwan, ça peut être un tremblement de terre. On l'a vu au Japon, le tremblement de terre de Kobe a mis fin à la croissance japonaise. La croissance des années 70, ça peut être ça. Ça peut être aussi l'invasion de la Chine. C'est un souci.
Ça reste toujours, il y a cette épée de Damoclès.
Quelle que soit la raison, s'il arrive quoi que ce soit à Taïwan, le monde entier.
Oui, parce qu'il faut bien rappeler. Je rappelais les métiers. Donc il y a de la conception de circuits intégrés, il y a de l'assemblage de composants, il y a de la fonderie. C'est 68% du marché mondial de la fonderie de puces. Et puis derrière, on parle de ces usines, mais on parle aussi de le fournisseur d'énergie, qui lui aussi est-ce qu'il va redémarrer tout de suite. Enfin voilà, il y a tout l'écosystème autour de ça. Oui, il y a de quoi s'inquiéter aujourd'hui, alors qu'on a un tel besoin et on l'a vu pendant le Covid. Sans composants, on a même vu des chaînes d'assemblage de voitures.
Qui
s'arrêtait, Zoé.
Non, enfin, rien à ajouter. Je pense que la dépendance, on l'a pas forcément en tête parce qu'on pense Nvidia et en fait Nvidia dépend de la fonderie de puces de SMC, comme tu le disais.
Nvidia, c'est faiblesse. Ça n'a pas de fabrique rien.
Exactement, exactement. Mais et toute l'histoire de TSMC est fascinante. Je vous conseille le podcast Acquired là-dessus, qui dure 3 heures, qui raconte de A à Z. Oui. Mais enfin. Pour créer...
avec des rachats, une société qui en 2015 était proche de la fin, s'est relancée avec des rachats. Enfin voilà,
c'est le gouvernement taïwanais qui a demandé aux fondateurs de commencer TSMC. Mais ça demande, il y a des demandes de capitaux immenses, en tout cas au début. Et en fait, je rajouterais peut-être un point qui est qu'ils sont habitués au séisme, pas de cette envergure-là, on parle d'un séisme de 7.2, mm-hmm. Il n'y en a pas eu un comme ça depuis 25 ans, mais ils ont mis en place pas mal de choses, donc par exemple, les machines qui sont arrêtées, ils sont en mesure de les redémarrer en l'espace de 36 heures, parce qu'ils ont eu des entraînements au préalable. C'est plutôt la provision en énergie et la menace chinoise.
C'est pour ça que j'en parlais, c'est tout l'écosystème alentour.
Et surtout,
c'est...
les questions géopolitiques qui sont autour.
Bruno, ton regard depuis Québec de ce tremblement de terre et justement de ce choc aussi pour l'industrie, pour l'économie.
Je reviens sur les propos de Enguerrand quand il disait qu'on ne se rend pas bien compte, mais je vous dirais que les Américains, eux, s'en sont rendus compte assez rapidement pendant la COVID, et c'est pour ça qu'ils ont investi des milliards pour l'installation de lieux où on va pouvoir produire des microprocesseurs sur le territoire américain, parce que plus jamais, c'est Joe Biden qui le disait, plus jamais il veut voir les États-Unis être dépendants, peu importe du pays autre, il veut être souverain dans ses microprocesseurs. Et j'avoue que je sais qu'à un moment donné, il y avait eu cette réflexion-là du côté de l'Europe. Il y a eu des investissements qui, malheureusement, sont en train de bouger, là. Il devait y en avoir en France, finalement, c'est plutôt en Allemagne, peut-être que ça va se faire. Mais c'est une question qui est importante et ça ramène l'importance de la souveraineté technologique des grandes sociétés sur la planète.
Pour moi, ça ramène deux choses, parce qu'on parle beaucoup des atouts de l'Europe, alors voilà, nos cerveaux, etc. Mais des atouts d'Europe, c'est aussi une énergie décarbonée, quand même. Enfin, notamment, on parlait pour la France, l'Allemagne, c'est un peu plus compliqué, mais la France, énergie décarbonée. On va avoir des besoins en eau. En ce moment, en France, on peut fournir. Bon, il y a quand même toute une structure à mettre en place. On a peut-être des atouts en énergie. On est très à cheval sur tout ce qui est développement durable. On n'est quand même pas dans des zones sismique de ce point de vue-là.
Frédéric, c'est quand même c'est pas facile de relocaliser la production. Non. C'est une usine de 7 nano, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars. Donc, ce que disait.
Ne serait-ce que pour déménager les machines ASML, enfin pour en installer une, c'est un an pour l'installer, c'est des machines de 150 tonnes.
Et mon collègue disait effectivement les États-Unis ont réagi très rapidement avec un Chips Act. L'Europe aussi, il l'a signé quasiment dans la foulée. C'est quand même 50 mis 50 milliards de dollars sur la table, mais 50 milliards de dollars, on a l'impression que c'est beaucoup. Finalement, à l'échelle de la nécessité en capitaux pour faire des nouvelles usines de dernier cri. Mm-hmm. Parce que ce qu'on a fait, là, on l'a vu, il y a eu un investissement de Broadcom avec ST Microelectronics à Grenoble, qui est quand même le lieu en France où on produit le plus de semi-conducteurs. Bon, c'est pas les puces de dernière génération.
C'est des 16, 20 nanomètres. Voilà, et là, on est bon. Dans les voitures, c'est bien. Dans les frigos, c'est bien.
En France, il me semble une capacité en dessous de 10 nanomètres. Il me semble. Ça à vérifier. Mais c'est ça l'avenir. Et quand on voit Nvidia qui dit effectivement, qui remplace sa H100 par une G500, il me semble, avec une finesse de gravure qui est inimaginable en Europe, on va mettre des années et des années et des milliards et des milliards d'euros pour rattraper.
Est-ce que c'est inimaginable? Est-ce qu'on a un manque de talent? Le fondateur de TSMC avait travaillé chez Texas Instruments avant et dans d'autres maisons.
Non, je pense pas qu'on a des manques de talents. Je pense que c'est une question de d'infrastructure et d'investissement. Si ça coûte très 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 cher, on l'a vu à Grenoble. À Grenoble, c'est l'État qui a payé la facture de l'installation l'acquisition de Broadcom quand même.
Mais rien qu'à SML, hein, on l'a vu, on en a parlé ici même l'autre jour, une machine à SML, c'est 150 tonnes, c'est 6 mois pour aller l'installer, c'est 6 mois pour la paramétrer. Voilà, et à SML, ils ne sont pas capables d'en construire comme ça indéfiniment, parce qu'à un moment, il était question qu'ASML vienne installer un centre de production en France. Bon, je crois que c'est plus du chantage qu'autre chose, parce que...
Du chantage vis-à-vis du gouvernement néerlandais.
Néerlandais, pour rester sur Eindhoven et dire, écoutez, faites des choses pour nous, parce que notre région fait un peu pitié, alors que on est au centre du monde aujourd'hui avec nos machines. Bruno, tu nous vois comment, toi, par rapport à cette histoire de souveraineté, c'est vrai qu'on avait... Alors nous, c'est Intel, pour ne pas les nommer, avait choisi la France pour un centre de recherche, et puis l'Allemagne pour un centre de production. Ils ont démarré en Allemagne. Bon, en France, Pat Gelsinger a dit il y a quelques jours, non, en fait, on reporte, on a d'autres priorités aujourd'hui. Et quand il a rencontré Emmanuel Macron il y a quelques jours, c'était plus pour lui dire, écoutez, on est en train de construire des usines formidables aux États-Unis, comment vos industriels pourraient venir produire chez nous, hein? C'était un petit peu ça.
Ouais. Et moi, j'ai l'impression, en tout cas, vu de ce côté-ci de l'Atlantique, j'ai l'impression que c'est un manque de vision politique. Et j'imagine, on rêve, là, on discute, j'imagine un Bruno Le Maire qui prendrait le dossier dans les mains et partirait à la recherche de partenaires économiques du côté privé qui voudrait s'associer au gouvernement. Moi, j'ai l'impression qu'ils arriveraient à trouver le financement pour installer un vrai fabricant de microprocesseurs qui pourrait par la suite rayonner sur toute l'Europe. Mais je le sens pas, ça. Je sens des partenaires financiers qui viennent tourner autour de la présidence, du premier ministre, mais je sens pas vraiment d'oreille et je vois surtout pas de vision à moyen et long terme. Et c'est ça qu'il faut avoir. Il faut être conscient de l'importance des microprocesseurs dans le développement économique des pays. Et ça, je le sens pas du tout de chez vous.
Moi, je milite pour qu'on ait deux premiers ministres, un premier ministre classique et un premier ministre numérique qui suivent que ces sujets-là à tous les niveaux. Et pourquoi pas Bruno Le Maire, parce que c'est vrai qu'il avait fait un discours, j'en parle souvent, au World AI Can, il y a deux mois à peu près, qui était assez visionnaire. On se dit, tiens, si tous ces engagements dans ce discours étaient tenus, bien oui, il a mis le doigt sur tout ce
qui... Mais Bruno a raison, on a beaucoup parlé d'argent, mais il faut une vision.
Bruno Guglielminetti.
Oui. Excuse-moi, Bruno. Il faut une vision.
Ouais.
Et c'est ce que Joe Biden, qui a beau être relativement âgé, on lui reproche suffisamment, avait quand il a fait l'IRA.
Mais il a connu l'histoire aussi. Il a connu l'histoire. Il est âgé justement. Il a vu tous ces usines qui sont parties, ces géants, ces IBM, ces grandes sociétés. Bon, il en reste que Microsoft aujourd'hui. Bon, il y a encore des Oracle qui vivent encore, mais il a quand même vu tous ces géants à l'époque, ces Sun Microsystems, toutes ces immenses sociétés. Tous partis, et puis là aujourd'hui il se dit non, il faut que ça revienne. Donc je pense que lui aussi ça doit le travailler, parce que c'était la puissance américaine, Bruno, toi qui regardes ça de
et puis après tranquillement c'est retourné au Japon, c'est retourné à Taïwan, et la Chine a pris une place qu'elle n'avait pas, puis est en train de bien faire de son côté. Donc effectivement, moi j'ai l'impression que c'est une question de vision, et tant que ça ne sera pas une priorité pour l'État français et même de vos voisins, ben j'ai l'impression que vous serez justement tributaire de ce qui se passe en Asie encore. Et puis du côté du Canada, je vous dirais qu'on est beaucoup partenaires avec ce qui se fait. Il n'y a pas de grandes usines de microprocesseurs, mais à part celle de IBM au Québec, qui a aussi un ordinateur quantique. Mais sinon, il y a énormément d'entreprises canadiennes qui fournissent et qui sont très heureux de voir ces grandes usines américaines-là, parce qu'ils fournissent des composantes. Et plutôt que les envoyer à l'autre bout du monde, ben, ça va descendre tout simplement au sud.
Eh bien, merci à tous les trois. Vous restez avec nous, bien entendu, hein, Bruno Guglielminetti depuis Québec, Zoé Moll et Enguerrand ici sur notre plateau. On va poursuivre notre débrief. On a encore beaucoup de choses à raconter, notamment autour de des levées de fonds, de Amazon AWS qui signe avec Mistral notamment. Et on va tout de suite retrouver le journal de l'écho avec Léo Dumas. Et puis, on enchaînera encore. Et puis, n'oubliez pas, hein, tout à l'heure, on parlera aussi des magasins Amazon Go qui ferment. Vous savez, ces magasins, on ne payait pas, on n'avait plus de caisse, rien du tout. Finalement, on a été un peu blousé là-dessus. C'était des Indiens qui regardaient derrière des caméras. Il y avait un peu moins d'intelligence artificielle que ce que l'on imaginait. Voilà, on reparlera de tout ça avec nos invités tout à l'heure.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Bonsoir Étienne Brack, un début d'année difficile pour les startups françaises après les sommets atteints pour la période post-Covid. Les levées de fonds avaient déjà drastiquement ralenti en 2023 et ça ne redécolle pas en 2024, sauf pour quelques-uns, on en parlera de Pigment dans un instant, mais voilà, ça reste compliqué, ça cale un peu pour les startups françaises.
Oui, la normalisation se poursuit d'après le baromètre d'EY qui a été publié, avec notamment une compilation des levées de fonds au premier trimestre pour la French Tech. Ça concerne la France uniquement, ces données, avec des startups qui ont levé 1,8 milliard d'euros au premier trimestre. C'est une baisse de 5% par rapport au premier trimestre de l'année dernière, qui, rappelons-le, était un trimestre très compliqué, puisqu'avec la remontée des taux, la fin de l'argent gratuit, il y a un an, on avait une baisse de 58% des levées de fonds par rapport à 2022. Par contre, en termes de dynamique, vous avez toujours autant de tickets, approximativement 200 tickets depuis deux ans au premier trimestre. Ça prouve bien que vous avez des volumes qui sont toujours là, mais des tickets moins importants. On le voit, il y a beaucoup moins de licornes depuis le début de l'année, de nouvelles licornes. Donc là aussi, ça se normalise avec, rappelons-le, une dynamique l'année dernière qui avait été en forte baisse, puisque vous avez 8,3 milliards d'euros qui ont été levés en 2023, moins 30% par rapport à 2022, qui avait vraiment été le pic. Et ça suit vraiment la remontée des taux, puisque la BCE a commencé à relever ses taux il y a bientôt deux ans. Donc la fin de l'argent gratuit, une visibilité qui est un peu plus réduite, et puis aussi des investisseurs qui sont plus exigeants, qui demandent des start-up avec la portée de cash un peu plus rapide. On a des investisseurs qui sont beaucoup moins patients. Donc là aussi, forcément, ça se voit dans les chiffres. Pour rappel, les secteurs qui se distinguent en termes de levée de fonds, la green tech, très largement. On se souvient que l'année dernière, beaucoup de green tech avaient levé de l'argent. C'est quasiment un tiers des montants qui ont été levés l'année dernière. S'en suivent à la deuxième position et troisième position le secteur des logiciels et des sciences de la vie à 13 et 14%. Donc vous voyez, il y a un grand écart entre les leaders et le reste.
Merci Étienne Brack pour toutes ces précisions et on va reparler avec nos invités tout de suite. Je vais démarrer avec Zoé Moll qui est associé chez Balderton Capital, Enguerrand Renault consultant chez Image 7 et Bruno Guglielminetti, journaliste animateur de mon carnet de l'actualité numérique depuis Québec. Zoé, associé chez Balderton, donc tu es au cœur de tous ces investissements. Oui, c'est ce que tu ressens aussi depuis sur ces trois années là.
Ouais, alors je pense que ça a été bien résumé par Étienne. Les taux d'intérêt bas, ça veut dire que les classes d'actifs plus risquées ont plus de sens. Quand ça remonte, ça a un petit peu moins de sens. Pourquoi est-ce qu'on prendrait tels risques si on peut avoir des rendements peut-être un peu moins bons, mais ça dépend là où vous investissez, mais un petit peu moins bons, mais très sûr. C'est certain. Après, on n'est pas trop mal loti. 5%, c'est vraiment pas grand-chose. Et je veux pas être alarmiste, mais... une baisse de 5% des levées de fonds pour les startups, c'est une chose. On a vu une baisse de 70% des levées de fonds pour les fonds d'investissement français entre 2022 et 2023. Les fonds d'investissement ont levé 1,3 milliard versus 7,7 milliards. Folie des grandeurs d'avant, peut-être. C'est en train de se restabiliser. Mais d'un point de vue un peu plus empirique à mon échelle, de ce que je vois en ce moment, on est en début Q2 2024. Moi, je commence à voir que ça se réanime tout ça.
Je trouve d'ailleurs dans les levées de fonds que l'on reçoit, on commence à revoir des levées de fonds au-dessus de 20 millions d'euros, 20 millions de dollars en Europe, chose qu'on voyait beaucoup moins là sur les six derniers mois. Quand quelqu'un levait 12, on se dit oh, c'est super. Et là, c'est vrai qu'on revoit un petit peu quelques montants
Pour résumer, effectivement, comme Étienne l'a dit, on a autant en nombre d'opérations, mais elles ont été beaucoup plus petites. Donc, le nombre d'opérations à plus de 50 millions a baissé de 50%, ce qui est moins qu'en Allemagne et dans d'autres géographies. Donc on n'est pas trop mal loti. Mais la raison pour laquelle on a autant d'opérations, c'est parce que l'écosystème est devenu beaucoup plus mature en amorçage.
Vous avez investisseurs plus exigeants aussi.
Oui, mais il y a quand même, encore une fois, il y a plus d'opérations tout au début. Donc il y a plein de bébés start-up qui ont été créés. C'est pour ce qui est après qui a été plus difficile. Quand on lève à des valorisations très importantes, parce qu'on est dans un marché porteur et qu'on doit lever le prochain tour de financement, c'est plus difficile.
On a l'impression que sur le marché français, on a un peu fait deux pas en avant, un pas en arrière, parce qu'on retrouve un peu ce que l'on disait avant la situation Covid. C'était toujours ça. On avait, au début, les entreprises avaient pas trop de mal à lever des fonds. Mais après, quand il fallait passer à l'étape suivante, c'était toujours un peu compliqué. Et on revient un peu à cette situation-là, non, de 2018-2019.
Ouais, peut-être pour, c'est à peu près ça. En fait, quand on lève un beau seed ou une série A vraiment en amorçage, on ne sait pas encore prouver. En général, on a moins d'1 million de revenus récurrents. C'est après que ça se complique, surtout dans un environnement où c'est plus difficile de vendre à des clients enterprise comme Pigment le fait. Donc chapeau à eux, c'est vraiment très très difficile dans un environnement qui se contracte. Donc oui, après il faut faire ses preuves pour lever les plus gros rounds.
Enguerrand.
Non, moi ce qui m'intéresse toujours dans ces sujets et j'ai longtemps regardé, c'est deux choses. C'est d'une part tu l'as dit, Zoé, à un moment, il y a la folie des grandeurs. Donc là, souviens-toi, il y a, en 2022, les tickets à 100 millions, il y en avait, très régulièrement.
Moi, je me souviens toujours sur BFM Business, je crois qu'on a eu trois en 36 heures.
Voilà. On s'était bêtement habitué aux tickets à 100 millions. On revient.
Là, à 500 millions, hein.
Voilà. On revient à des considérations un tout petit peu plus raisonnables. Zoé parlait de revenus récurrents, et on va en parler avec Pigment. C'est-à-dire l'ARR, le revenu récurrent, c'est-à-dire on regarde effectivement ceux qui sont capables de vendre. Et puis on commence à regarder, alors pas dans les phases d'amorçage, parce que par définition ça ne marche pas, mais on leur demande à ces startups, non pas de croître à l'infini, mais de devenir rentables à un horizon, j'allais dire, raisonnable. Donc les demandes ont changé. Et ce qui m'intéresse aussi, et ça c'est Zoé qui va pouvoir nous répondre, c'est-à-dire il y a une notion qui est très importante, c'est ce qu'on appelle en bon français la poudre sèche, c'est les réserves. Est-ce qu'il en reste un tout petit peu sous le pied dans les fonds? Parce que si les taux d'intérêt baissent, est-ce que ça va reprendre immédiatement parce qu'il y a des réserves,
mais
ou est-ce qu'il va falloir attendre que les fonds retrouvent de l'argent chez les sponsors? Et ça, c'est une question de timing.
Oui, mais visiblement, les fonds ont du mal à lever. Donc, est-ce qu'ils ont de l'argent si ça repart?
Oui, en fait, pourquoi est-ce que les fonds ont du mal à lever? C'est pas juste parce que les taux d'intérêt sont remontés, c'est aussi parce que les perspectives d'exit, donc comment est-ce que les fonds d'investissement font un retour sur investissement, y en a de moins en moins. Côté IPO,
on a arrêté
complètement, on est en train de reprendre, mais vraiment tout doucement. Côté acquisition, M&A, ça a été quand même très compliqué. Et même les belles opérations qui étaient censées être menées à bout, type Figma, ont été contrées par les gouvernements.
Soit elles ont été contrées, soit les belles opérations, c'est des entreprises beaucoup plus matures
qui
se font racheter à quelques milliards. Et dans les startups, c'est vrai qu'on a moins vu de...
Mais ce sont ces retours sur investissement qui justifient qu'un fonds retourne voir ses LPs et dire « je vais faire un 4e, 5e fonds et je vais investir ». Il y a pas mal de facteurs différents. Est-ce qu'il y a de la dry powder? Oui, il y en a. Mais en fait, on s'est retrouvé dans une situation où les startups arrivaient à un certain niveau de maturité qui devait se prouver après une première belle levée, sont retournés toquer aux portes des investisseurs en disant, en pensant que ce serait facile parce qu'il y a beaucoup de poudre blanche. Et en fait, c'est pas exactement ça qui s'est passé. Il y a eu un moment un petit peu étrange où les deux sont un peu regardés en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Et on sent, moi, en tout cas, je ressens que c'est en train de repartir. Il y a des belles levées de fonds qui sont en train de se faire.
Sur les domaines, là, Étienne Braque nous dit, c'est la green tech, c'est les life science, c'est les logiciels, voilà, d'accord avec, ça correspond.
Oui, c'est-à-dire qu'on est passé.
Alors évidemment, il y a l'IA derrière tout ça.
On est passé d'une folie, ce qu'on appelait les applications. Le logiciel, ça a toujours été là. Il y a eu la folie des applications. Puis après, il y a ce qu'on appelle la deep tech, c'est-à-dire avec des... C'est des véritables inventions, c'est de la recherche qui sort des laboratoires, qui a besoin, parce que le passage d'un laboratoire à l'industrie, c'est extrêmement compliqué.
Déjà pour la régulation, tout ce qui est les réglementaires, etc.
Ça nécessite beaucoup d'argent. Ça nécessite beaucoup d'argent. Et on le voit, il y a des nécessités, la green tech. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même un besoin dans le monde de lutter contre le changement climatique. Donc ça devient une nécessité.
Bruno, toi qui vois tout cela, alors déjà comment ça se passe aussi au continent nord-américain et sur ta partie le nord du continent nord-américain? Et puis comment tu regardes aussi ici, outre-Atlantique?
C'est sûr que Quand on regarde ça de l'extérieur, puis je le suis parce que, bon, je parle à des gens, puis aussi je fais un peu ce qui se passe par le biais de BFM Business, mais ce qu'on sent, c'est que justement, il y a eu une période de ralentissement très sérieuse, et là, tranquillement, pas vite, moi, je sens, quand je parle à des gens, je sens que c'est en train de reprendre. Mais il manque encore un peu de confiance, mais on sent qu'on veut que ça reprenne. Et si je compare à ce qui se passe du côté de l'Amérique en général, je regardais encore il n'y a pas tellement longtemps un rapport de chez Deloitte qui disait que pour les 6 prochains mois devant nous, il fait bon, il faut investir, il faut acheter, il faut nourrir les nouvelles pousses. Mais puis on est dans le même domaine, hein, la green tech, tout Life ce qui est... Oui, exactement. C'est la même volonté d'essayer de trouver des solutions aux problèmes d'aujourd'hui pour l'ensemble de la planète. Et ce secteur-là, il est très prometteur. Et on sent que les capitaux sont là. Mais un peu comme chez vous, maintenant, les gens qui investissent demandent beaucoup plus de détails. Oui. Et on est très loin de l'époque où il y a 20 ans, il y a 24 ans, où je me souviens d'avoir été présent dans des sessions de pitch d'entreprise à San José, où l'entrepreneur, il y avait une série d'entrepreneurs qui avaient 5 minutes pour présenter leur entreprise, et puis après, il y avait des chèques de millions de dollars qui signaient sur le coin de la table en disant, avec une carte d'affaires, en disant, vous contacterez mon avocat, on investira un petit peu plus tard la semaine prochaine. On n'est plus là. Les investisseurs sont sérieux et demandent que les entreprises fassent leurs devoirs et prouvent qu'elles seront rentables sur un laps de temps beaucoup plus réduit que ce qui était demandé auparavant. Puis ça, je pense que c'est une bonne nouvelle, autant pour les investisseurs que même les entrepreneurs eux-mêmes, parce que ils doivent vraiment faire leur devoir.
Oui, puis les investisseurs ont acquis aussi une certaine maturité, notamment dans tous ces univers de la tech. Ils se font un peu moins avoir sur des potentiels technologiques qui allaient révolutionner la planète. Je me souviens de l'anecdote c'est Sergey Brin et Larry Page qui vont chez Andy Bechtolsheim et comme ça, juste la présentation de Google. Bon, il leur avait fait un chèque de 100 000 dollars à l'époque. Donc, je pense qu'il l'a depuis largement rentabilisé. Avec tout ça, ça nous fait pigment. Une nouvelle licorne française en garant.
Alors, effectivement, quand il y a un très beau dossier, et Zoé nous le dira, là, il y a de l'argent. On l'a vu pour Mistral, qui a levé plus de 300 millions d'euros. Là, on le voit pour Pigment, qui est une très belle société. Tout le monde le... Et vous l'avez détecté très en amont. Effectivement, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils ont reçu de l'argent ? Alors, de ce que j'ai lu, c'est en avance, c'est-à-dire qu'ils n'en avaient même pas besoin. Oui. C'est-à-dire que
investisseurs. On rappelle, c'est un outil de planification stratégique. Voilà,
outil de planification financière et budgétaire qui a pour ambition extrêmement intéressante de remplacer Excel.
De remplacer Excel et de fournir aussi des simulations. Excel, voilà.
Et de faire des simulations. Ça a été tout de suite adopté par les sociétés de la Silicon Valley. Mmh. Vraiment. Tout de suite, alors que c'était vraiment un outil totalement débutant. Et ils ont réussi, donc ça leur a donné un certain prestige, ils ont réussi à passer maintenant sur les grands comptes. Et ça c'est très intéressant, parce qu'un grand compte, ça fait du revenu récurrent. Oui. Voilà. Et quand on est en logiciel, il faut avoir le revenu récurrent. Et donc, ils ont triplé leur revenu récurrent, et donc, ils ont prouvé que ça fonctionnait auprès des grands comptes, auprès des startups, auprès des petites entreprises, auprès des grands comptes. Et là, les fonds d'investissement, sans qu'on leur demande, ont remis de l'argent pour préempter. Je suis pas sûr d'avoir très bien compris, mais pour préempter d'autres fonds d'investissement.
C'est très important en ce moment.
Voilà. Alors, Zoé va peut-être nous expliquer. Mettre 145 millions d'euros
pour préempter. Et puis avec des fonds sérieux, il y a un fonds, c'est présidé par, je sais pas si c'est présidé, mais en tout cas, elle est liée à l'intérieur, c'est Sheryl Sandberg, l'ancienne numéro 2
de Meta. Ça, c'est très important. C'est pas tellement pour le montant d'argent qu'elle va mettre dans le Pigment, c'est pour son carnet d'adresse.
Ouais.
Sheryl Sandberg connaît la terre entière.
Exactement.
Donc, ça veut dire que c'est la meilleure VRP de Pigment. C'est la meilleure VRP qu'il pouvait imaginer.
Zoé.
Ouais, 50% de son revenu est déjà aux États-Unis auprès de grands comptes type Unilever, Datadog et autres. Et Sheryl Sandberg, ça doit être. Ouais, c'est un choix extrêmement judicieux. Donc ils ont fait ce tour de financement avec le même investisseur que le tour précédent, Iconic Growth. Super fonds d'investissement américain qui est de plus en plus implanté en Europe. On les connaît bien. Et effectivement, pour revenir sur ton point, en fait, quand on passe cette première phase de première levée de fonds d'amorçage de série A et qu'ensuite il faut se prouver, en fait, il y en a assez peu dans cette période qui se sont prouvés autant que Pigment. Parce qu'ils ne se sont pas juste prouvés sur le 3X, ils n'ont pas juste triplé leurs revenus. Ils ont réussi à tripler leurs revenus et avoir la moitié de leurs revenus aux États-Unis auprès de grands comptes. Au sein de ces comptes, ne pas juste être utilisé par la direction financière, mais oui, par plein d'autres business units de
l'entreprise. Et l'IA générative va leur faire un bien fou. Va en plus accélérer tout ça.
Ils ont intégré un peu d'IA générative déjà dans leurs produits, mais je veux dire, c'est quand même très impressionnant d'arriver à faire
très
tout ça.
Très impressionnant.
Parce qu'il faut voir, hein, on a vraiment, enfin moi j'ai déjà vu tourner ce logiciel, on peut carrément faire des simulations, de dire tiens, le taux de change va bouger de 12% entre le dollar et l'euro, qu'est-ce que ça signifie pour mes revenus États-Unis, France, etc. Donc du coup, hop, je peux planifier, me dire bah tiens, je vais peut-être accentuer ma présence à tel endroit. Enfin, c'est assez.
Si je perds ces deux clients, quel oui. sera l'impact dans deux quarters sur mon sur mon revenu? Je veux dire, Excel, j'adore Excel, j'utilise Excel souvent, mais c'est quand même un logiciel ancien, ouais, très ancien. Et la raison pour laquelle on l'utilise tous, c'est parce que bon, il y a de la familiarité, mais surtout parce qu'il y a un network. Ouais. Tout le monde utilise Excel.
Ouais. Ouais. Donc, en fait, on se comprend.
Peut-être que le prochain network sera Pigment.
Oui, il y avait aussi une société qui a longtemps été dirigée par un Français, une société américaine qui s'appelait Anaplan.
Anaplan, ouais, qui existe toujours. Hein,
qui existe toujours.
Qui marche plutôt bien aussi.
Qui a connu une croissance assez fulgurante. Il me semble qu'elle est moins importante maintenant.
Oui.
Mais qui avait déjà attaqué cet outil de planification stratégique.
Ils ont été rachetés 10 milliards par Thomas Bravo.
Oui, c'est ça. Par le fond Thomas Bravo. Bruno, parmi tout ça aussi, on voit, alors on reste dans cet univers du logiciel. C'était l'AWS Summit hier, donc le grand rendez-vous, plus de 10 000 personnes à Paris, porte maillot. Hein, on y était bien sûr avec Tech & Co Business, on y revient ce week-end. Et Amazon, ben voilà, a présenté sa plateforme Bedrock avec ou sur laquelle on va pouvoir l'entreprise cliente de cette plateforme va pouvoir utiliser du Mistral, du Stability, du Claude 3 d'Anthropic. Voilà, qu'est-ce que tu déjà plutôt pas mal pour notre français Mistral qui commence à se positionner, hein, présent chez OpenAI, présent là aussi. Comment tu regardes aussi on voyait AWS beaucoup plus discret, on les entendait, ils investissaient dans Anthropic, ils investissaient voilà dans Stability, dans différentes entreprises, mais voilà, ça sortait pas et puis là ça y est, c'est arrivé.
Ben, c'est drôle parce que ce matin, je faisais une entrevue avec un des représentants d'AWS et je lui posais justement des questions sur l'introduction de Mistral à l'intérieur de l'outil Bedrock. Et ça fait quelque temps que l'outil est là, mais là, c'est Mistral large qui arrive, qui est disponible. Donc, l'outil ultime qui a été développé par l'entreprise française. Et ce que ça permet de faire, ça permet de consolider la solution d'AWS, le fameux Bedrock, là, les outils. Ça permet de consolider l'outil en Europe parce que les autres outils sont faits principalement aux États-Unis. On pense à Anthropic, on pense à Meta, qui a aussi des outils à l'intérieur de Bedrock. Mais là, on parle d'un outil qui est développé et qui est natif européen, si vous voulez, et qui répond très bien aux demandes et aux réalités, incluant culturelles, qui sont propres à l'Europe. Et ça, c'est pas banal. Ça répond aussi à certaines demandes de la part des entreprises, des organisations européennes qui veulent travailler avec des outils européens. Puis de l'autre côté, moi, ce que je trouve intéressant, très égoïstement, comme francophone, c'est que ça amène un outil qui est natif francophone, qui comprend bien la langue française et qui peut performer encore mieux que Claude 3, par exemple, ou des outils de Meta qui sont disponibles à l'intérieur. Et ça, je trouve que, d'une part, comme utilisateur, je trouve ça intéressant, mais c'est une belle reconnaissance du savoir-faire et ça va mettre de l'avant le savoir-faire des gens de Mistral. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour Mistral, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour tous les clients d'AWS.
Et bonne nouvelle aussi, peut-être aussi pour AWS, Bruno, parce qu'on a vu que AWS, alors, domine toujours les parts de marché, hein, parmi les trois hyperscalers le deuxième c'est Azure, Microsoft, et puis derrière GCP. On a vu donc AWS avait sur le trimestre avait 33% et passé à 31. Dans le même temps, on a vu Google Azure qui a pris 1% qui est passé de 23 à 24.
Ça veut dire qu'il y a moins de 10 points de différence. Hein.
Ouais, et je suis sûr que si on regarde sur 2024, parce qu'avec OpenAI, parce que le but de pousser les gens vers OpenAI, ChatGPT, c'est que derrière ils signent avec ou Copilot, c'est que derrière ils signent avec Azure. Donc je pense qu'on va voir une croissance dans les 6 prochains mois là pour Azure. Et il fallait qu'AWS bouge, hein, parce que sinon, ben voilà, les parts de marché allaient aussi bouger. Bruno.
Oui, puis eux, ils investissent énormément dans Anthropic. C'est des milliards après milliards qui sont investis. Et d'ailleurs, je me souviens, il y avait, avant le Paris Summit que vous avez eu cette semaine, il y a eu en début décembre ou fin novembre dernier à Seattle, il y avait cet événement-là. Il y avait le grand patron d'Anthropic qui venait signer, prendre la main des gens d'AWS pour confirmer leur partenariat. C'était un engin principal de leur stratégie d'IA. Mais de voir Mistral l'arrivée, moi je trouve que c'est plutôt rassurant pour tous les joueurs qui sont sur le continent européen parce qu'ils savent qu'avec ça ils auront un outil qui va répondre à tout le côté, j'allais dire législatif ou qui encadre l'utilisation de l'intelligence artificielle sur votre territoire, puis ça c'est pas banal non plus.
Ouais, ils auront le choix, voilà. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le choix de cloud de ces trois Américains... Voilà.
C'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que AWS a adopté une stratégie résolument tournée vers les besoins de ses clients. C'est-à-dire que Microsoft pousse OpenAI, parce qu'il a quand même mis 10 milliards dedans, donc c'est un peu normal qu'il pousse. Il pousse un tout petit peu Mistral également, hein, puisqu'il a fait... Enfin, Microsoft est véritablement marié avec OpenAI. Google est marié avec Gemini, puisqu'il l'a développé. Et donc, ce qui est très bien, c'est qu'AWS est agnostique d'un point de vue technologique, et donc va dire à ses clients, mais quels sont vos besoins, et en fonction de vos besoins...
En plus, ils conservent les versions open source. Hein,
exactement. Voilà. Ils ont même les versions de Llama, les versions open source de développées par Meta. Et en fonction de vos besoins, si vous voulez de l'open source, on a Llama. Si vous voulez du francophone, on a Mistral. Et donc, c'est un discours qui, moi, me paraît relativement intelligent et qui permet d'éviter de se faire grignoter des parts de marché par Microsoft. Voilà. Moi, je parierais sur le rebond de AWS.
Surtout qu'ils en ont besoin. Je veux dire, Amazon, c'est pas Amazon. Le reste du business, c'est pas un business très profitable. Tous leurs profits proviennent de AWS, donc ils en ont besoin. Je suis 100% d'accord sur ce que tu viens juste de dire, donc j'ai rien à rajouter là-dessus. Ce que je rajouterais peut-être, c'est quand on est une grande entreprise et qu'on se lance dans l'intelligence artificielle, il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Des barrières réglementaires, des barrières de sécurité, des barrières de mais d'où vient la data, est-ce qu'on va pouvoir me poursuivre en justice, etc.
De compétences.
Jusqu'à maintenant, et de compétences évidemment, jusqu'à maintenant, les entreprises clientes de Azure, donc de Microsoft, avaient un peu, c'était un peu décomplexifié là-dessus, puisque tous les produits qui proviennent de Azure sont, par définition, il y a un tampon de c'est OK. Mais bon, ce tampon, c'est seulement pour OpenAI et il n'y a que récemment qu'ils ont commencé à intégrer Mistral aussi. Mais via ce tampon, on a accès à GPT-4, le modèle le plus puissant qui existe aujourd'hui. Et là, on voit AWS avec une approche de plateforme qui va pouvoir proposer quasiment la même chose, si ce n'est qu'ils ne proposent pas GPT-4.
Oui. Et moi, je pense aussi...
Normal.
Deuxième semestre 2024, on devrait commencer à voir arriver aussi les Chinois. Je pense qu'il ne faut pas les laisser... les Tencent et tout ça ont des modèles aussi...
Oui, alors ça pose un problème de souveraineté. Oui,
ça pose un problème de souveraineté, mais ils ont quand même...
Ça pose un problème de souveraineté.
Ils ont des très bons
modèles. Je vois mal les grandes entreprises occidentales confier leurs données à un hyperscaler chinois qui, avec une intelligence artificielle chinoise.
Sur le marché chinois, ils vont y aller sur le marché chinois, mais une fois qu'ils reviennent... en arrière. Je voudrais juste, dernière minute, parce que je voulais qu'on parle de ce sujet très rapidement. Bruno, les 20 ans de Gmail, c'était en 2004, un 1er avril, personne n'y croyait, en disant, c'est un 1er avril, une messagerie qui va nous proposer 1 giga de données, alors qu'on avait 30 ou 60 mégas. Et puis oui, ils l'ont fait, et aujourd'hui, c'est 1,8 milliard d'utilisateurs. Plutôt un succès, pas en entreprise, mais plutôt, et avec 15 gigas aujourd'hui de stockage gratuit. Bruno, tu... En fait, voilà, on souffle que cette bougie, ces 20 bougies.
Ouais, ben faut se rappeler hein, qu'à l'époque c'était pour les happy few parce que de 2004 à 2006 c'était sur invitation seulement et ça valait de l'or cette affaire-là parce qu'on avait accès justement à un gigaoctet d'espace. À l'époque c'était Hotmail, c'était Yahoo Mail qui étaient les grands joueurs.
On avait Caramail en France.
Oui, Caramail.
Dorian Garcia, oui.
Et ça, c'est du souvenir. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde, c'est 1,8 million, si je ne me trompe pas, d'utilisateurs.
Oui, c'est ça.
C'est un beau succès et ça fait que c'est devenu un incontournable et un joueur clé de toute la messagerie du bon vieux courriel.
Et puis, il faut le rappeler que ça avait été un peu l'élément déclencheur, un peu. C'était le premier pas de Google hors son moteur de recherche. Ouais. Et ça avait enclenché un peu toute la suite hein, avec les Google Maps, Google Docs, les YouTube, les Chrome, enfin voilà, tout ce qui a suivi. Cet empire, oui, toute la famille, voilà, comme tu dis. Merci, merci infiniment à tous les trois, Bruno, Guglielm Minetti, journaliste animateur de mon carnet de l'actualité numérique. Je vous conseille vraiment, c'est vraiment un regard sur toute l'actualité qui nous concerne, qui vous concerne, qui vous intéresse. Merci à Zoé Moll, associée chez Balderton Capital, et Enguerrand Renaud, consultant chez Image7. Merci à tous les trois.
Merci,
c'était
Frédéric.
Passionnant, encore une fois. On va se retrouver dans un instant, on va parler, tiens, de Vivatech. Vivatech, c'est au mois de mai, de 22, 23, 24 mai, même le 25, je crois qu'il y a une journée aussi grand public. Vraiment notre salon de la tech. Et puis on parlera aussi de ces magasins qui ferment, ces magasins Amazon Go. On pouvait tout prendre en payant, mais finalement c'était pas aussi simple que ça techniquement. Allez, on va voir tout ça avec nos invités suivants. Restez avec nous sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne Tech Flash.
De retour sur BFM Business, le Tech Flash de Léa Benaïm, tout ce qu'il faut retenir de l'actualité tech de la journée.
Et bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Et pour ouvrir ce journal, Apple aurait dans ses cartons un robot domestique. Selon Bloomberg, la firme a mis en place une équipe dédiée à cette mission. Alors on a pour l'instant très peu d'informations sur ce projet top secret, seulement que les ingénieurs d'Apple essayent de créer un robot mobile capable de suivre les utilisateurs à leur domicile. Dans l'idée, l'entreprise imagine un écran fixé sur un bras robotisé. Et d'ailleurs, Apple a publié récemment de nombreuses offres d'emploi pour des postes d'ingénieurs en robotique. Et puis toujours chez Apple, les rumeurs autour de l'iPhone pliant vont bon train. D'un côté, la sortie pourrait être décalée à 2027. Pire encore, certains analystes cités par le média Digitime Asia affirment même qu'Apple pourrait abandonner le projet. Mais d'autres sons de cloche avancent qu'une partie des équipes assignées au Vision Pro serait désormais sur cette mission. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Apple est à un tournant dans sa stratégie. Après l'abandon de l'Apple Car, le mois dernier, l'entreprise est attendue de pied ferme sur l'IA pour sa WWDC prévue le 10 juin. Du côté de chez Google, la firme réfléchit à une version payante pour son moteur de recherche. D'après le Financial Times, un abonnement premium pourrait voir le jour pour toutes les fonctionnalités liées à l'IA générative. Ce dernier permettrait d'accéder à Gemini dans Google Docs et Gmail. Google cherche un moyen de rentabiliser ses recherches car l'investissement en puissance de calcul dans cloud est juste exorbitant. Et puis, retour en France avec une nouvelle licorne au compteur, c'est Pigment, un logiciel de planification financière. Son objectif, aider les grandes entreprises à se passer d'Excel avec une alternative française. La start-up vient de franchir le milliard de valorisation après une nouvelle levée de fonds aujourd'hui de 145 millions de dollars. Et pour finir, rendez-vous demain à midi pour un nouvel épisode de Quoi je me mail avec Anthony Morel. Et on a parlé de Voice Engine, le nouvel outil d'OpenAI capable de cloner votre voix en 15 secondes. Et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
On est obligé un peu de les croire sur parole. Ils ont publié ces petits des extraits audio en disant voilà, ça c'est l'original, ça c'est le clone.
T'as pas testé encore ?
Ben, on peut pas le tester.
Mais attends, tout.
Ben, je sais, je suis un peu à la bourre. J'ai pas de source en interne chez OpenAI, malheureusement. Mais alors, c'est intéressant aussi parce que OpenAI a dit en fait, on va restreindre l'accès justement parce que ce que vous disiez, le problème c'est qu'on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, quoi. C'est un
mais
peu
c'est,
le.
Mais c'est compliqué quand même parce que la voix c'est vraiment l'élément. On sait qu'on peut truquer une image, je peux prendre des photos de vous, vous animer, faire n'importe quoi. La voix restait jusqu'à présent une espèce de terrain sacré auquel on ne touchait pas. Et c'était hyper dur de reproduire. Enfin voilà, même les meilleurs imitateurs, on arrive toujours à trouver que c'est pas ça. Là, ce que tu nous as fait entendre, je trouve ça flippant.
C'est
après, reste à savoir si c'est pas aussi une question de fréquence, de timbre de voix. Est-ce que c'est adapté à toutes les voix ? On verra. Parce que des outils qui recréent des voix, moi j'en ai testé. c'est assez drôle, c'est, bon, ça fait un phrasé un peu foireux, mais ça existait déjà.
Ouais.
Mais pour toutes les voix. Là, sur ce timbre de voix-là, moi, je trouve ça flippant.
Voilà de quoi je me mets à la retrouver, et retrouver évidemment sur les chaînes de BFM Business et sur les chaînes de Tech & Co avec Anthony Morel en animateur cette semaine. Et puis tout de suite, on va recevoir notre invité suivant, François Bitouzé, directeur général de Viva Technologies.
Tech & Co, la quotidienne, l'invité.
Bonsoir François.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. François Bitouzé, directeur général de Viva Technologies. Alors, VivaTech, voilà, pour les amis, comme on disait à l'instant. Huitième édition, déjà, sous le signe de l'IA, évidemment, ça va être ça. Mais pas seulement. On va beaucoup parler international, on va beaucoup parler business, puisque les entreprises sont là avec les startups. On va beaucoup parler aussi développement durable. Alors, ça avait déjà été le cas, plus la version, peut-être pas l'année dernière, l'année d'avant, mais ça reste quand même une grosse tendance forte. On y revient. Il va falloir faire très fort parce que l'année dernière, c'était Elon Musk qui était sur scène avec Maurice Lévy. Mais bon, on vous fait confiance pour avoir encore beaucoup de grandes entreprises qui viennent là avec leurs startups, mais aussi avec leurs innovations. Parce que ça, c'est nouveau. Si on regarde la première édition, elles aimaient bien avoir toutes ces startups. Ça permettait de faire jeune. Mais là, aujourd'hui, on a des grandes entreprises qui sont là avec leurs innovations. Voilà, qu'est-ce qu'il faut... voilà, c'était aujourd'hui l'annonce hein, des grands programmes. Qu'est-ce qu'on doit retenir un peu des grandes lignes? Alors, 22-25, le 25 plutôt grand public, mais voilà, il y a déjà beaucoup de choses à découvrir.
Oui, bah, VivaTech est de retour, c'est la 8e édition, comme vous l'avez dit, et ça va être cette année l'événement international incontournable pour le monde du business, le monde de la tech, du digital et des startups. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette année, on a décidé de mettre la barre encore plus haut pour tout ce qui va concerner les innovations, les speakers et puis les opportunités business. Donc, beaucoup de surprises à venir. J'espère que vous aurez des papillons dans les yeux quand vous serez à Viva Technologies. Mais on a une très belle conjoncture par rapport à VivaTech et on a aussi un moment de la technologie qui est absolument incroyable et je peux vous dire qu'on va être le miroir de cette ébullition de la tech.
Alors il faut bien dire, hein, chacun des grands salons mondiaux ont leur ADN, leur identité. On a le CES, alors qui je trouve est quand même un salon très très américain quand même, même si tous les gadgets, toutes les innovations sont de portée mondiale, mais ça reste quand même très américain. Le Mobile World Congress qui lui voilà est un vrai salon B2B très très international, et puis dans tous ces rendez-vous VivaTech réussit à avoir voilà aussi sa touche avec on le rappelle hein, il y a les plus grandes entreprises sont là, les LVMH, les L'Oréal, les Orange, les Schneider, enfin les EDF, ils sont tous là avec leur lot de startups. Mais je dis, ce qui change aussi, c'est avec leurs propres innovations hein. Ça aussi c'est une des tendances, on l'a vu se dessiner, mais là c'est fortement marqué cette année hein.
Oui, exactement, et c'est vrai que ce qui rend VivaTech unique, c'est que dans 25 secteurs économiques, on a les acteurs les plus importants du marché au niveau mondial. Donc, par exemple, si vous vous intéressez à l'automobile, on a BYD, on a Tesla, on a Peugeot, on a Software, on a Audi, on a Toyota, et ça dans 25 secteurs. Donc, ces entreprises, elles viennent pour nous raconter comment elles font l'innovation, qu'est-ce qu'elles innovent, et surtout, elles vont nous raconter, mais dans les 12 mois, dans les 18 mois qui viennent, qu'est-ce qui va changer sur leur marché. Et c'est ça, la force de VivaTech, c'est que c'est ce coup d'avance, finalement, autour de ce qui se passe de manière très, très concrète dans le marché et dans le secteur de la tech.
2500 startups, 2000 investisseurs, donc on est là aussi pour connecter tout ce monde. Hein. On le disait à l'instant dans l'autre partie de l'émission, dans notre débrief, voilà, on sent qu'au niveau des fonds d'investissement, ça cale un peu en montant. Par contre, il y a toujours autant de tickets, hein, c'est juste les montants, mais on sent quand même un petit frémissement, donc je pense qu'on le retrouvera sur VivaTech. Un salon plus porté sur l'international aussi. Il y a beaucoup bon, Elon Musk évidemment était l'année dernière, mais pas que. Il y a beaucoup vous misez beaucoup, voilà, pour faire venir des acteurs internationaux,
Exactement.
Pas que des visiteurs.
Non, exactement. Et c'est vrai que VivaTech c'est devenu une plateforme internationale. Alors évidemment, nos racines sont européennes, mais on est devenu une plateforme qui relie l'Asie à l'Europe. L'Amérique du Nord avec l'Afrique, l'Europe avec l'Amérique du Sud, et je pense que c'est très apprécié à la fois pour les marques qui viennent à VivaTech et par les visiteurs. Et l'autre jour, je discutais avec un Américain, il me disait mais j'adore VivaTech parce que c'est le one-stop shop, le guichet unique pour découvrir le meilleur de la tech mondiale et particulièrement européenne. Donc nous, voilà, je pense que dans un moment où la géopolitique devient de plus en plus compliquée, notamment dans la tech, on est une espèce de safe place où la table est ouverte, Tout le monde est là et je pense que c'est très européen et c'est ça qui plaît à VivaTech.
Alors, faites-nous saliver aussi parmi les personnalités. Alors, on aura évidemment nos stars, nos Arthur Mensch de Mistral, on aura Bernard Arnault, patron de LVMH, on aura Nathalie Collin de La Poste, on aura Christian Edelman d'Orange, mais voilà, l'année dernière, je disais Elon Musk. Alors, on n'est pas à l'abri d'une surprise, hein. On connaît Maurice Lévy est toujours assez facétieux pour nous sortir quelqu'un du chapeau, mais il y a Thierry Breton qui sera là. Enfin voilà, il y a aussi une ambition internationale aussi du côté des
L'Europe va être très présente. Vous savez que VivaTech, on sera quelques semaines avant les élections européennes, et il est certain que les questions digital tech seront un gros sujet de ces élections. Donc on est content. Thierry Breton sera là. On aura aussi Charles Michel qui va venir à Viva Technology. On a des beaux
président du Conseil
président
européen,
du Conseil européen, bien sûr. On va avoir dans la tech, par exemple, Meredith Whittaker, Eric Schmidt,
Linda Iaccarino.
Linda Iaccarino. Donc ça fera un peu plus d'un an qu'elle est arrivée chez X. Donc elle aura des choses à nous raconter. Et puis dans le domaine effectivement des grands patrons, on aura Jonas Prising de Manpower. On a Mark Pritchard, voilà, de P&G. Quand même, c'est un personnage absolument incroyable. Mohamed Kandé qui vient de prendre la tête de PwC. Voilà. Oui. Tous ces personnages seront là. Et vous voyez, ça dessine vraiment. C'est un peu le Davos de la tech.
Et puis voilà, et quand on est dans la tech, ces noms-là résonnent, mais on les entend pas souvent. Si on voyage pas suffisamment, on les entend pas souvent. Donc là, c'est important de les voir, de les avoir ici et donc de les écouter. J'ai vu qu'il y avait John Kerry aussi, qui est l'ancien vice-président américain.
Exactement, et qui fait bien en plus le lien avec les enjeux climatiques. Et ce qui est très intéressant par rapport à ce que justement vous disiez, à VivaTech, on les voit. On va les entendre, tous ces gens-là, d'une manière différente parce que on est dans une plateforme où la parole est vraiment libre.
Et puis, ils s'adressent aux Européens, en plus.
Ils s'adressent aux Européens. Et surtout, on va les rencontrer. Mm-hmm. Moi, je me rappelle, c'est un très joli souvenir, quand Mark Zuckerberg était venu, il s'était baladé dans les allées, et je revois encore, il y avait un petit étudiant, c'était un bénévole de Via Technologie, qui arrive comme ça, donc la sécurité essaie de l'arrêter, il lui donne son CV, donc, silence. Je vous jure, c'est vrai. Le lendemain, il était appelé par Meta et il travaille toujours chez Meta.
Ah oui, c'est la belle histoire. On a vu, nous au CES, il est arrivé aussi de façon impromptue. C'était Satya Nadella aussi, patron de Microsoft, qui est arrivé de ce côté-là.
Ne vous jetez pas tous sur nos invités, quand même.
Oui, non. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour donner cet élan? Alors, on voit ces invités, ces liens start-up, mais pour vous, quel doit être le fil directeur cette année pour pour donner envie encore de venir à VivaTech?
Ouais, moi je pense que c'est les enjeux de business. C'est-à-dire à VivaTech, si on réunit les start-up, les grands groupes, les acteurs publics, de plus en plus
pour
de business investisseurs, exactement, c'est des gens qui doivent arriver et quand ils repartent de VivaTech, soit ils ont noué des contrats, soit ils ont fait des leads commerciaux, soit ils ont un coup d'avance par rapport à leur business et c'est ce qu'on va leur apporter. Autour de l'intelligence artificielle, qui est la clé de tout, mais plus que l'intelligence artificielle, vraiment, je le redis, on a une espèce de moment clé de la tech comme on n'a pas connu depuis 15 ans. Donc il faut la saisir. Et VivaTech, je pense, ça va être le bon endroit pour saisir et pour être là.
Oui, parce qu'on le rappelle, on a vu à quelle vitesse ces innovations sont, et notamment autour de l'IA générative, c'est arrivé, parce qu'on en a vu des révolutions technologiques, mais à cette vitesse-là, c'est vrai, et on a hâte d'entendre tous ces personnalités venir nous parler de tout ça. Merci François Bitouzé d'être venu avec nous, donc directeur général de Viva Technology, Viva Tech pour les intimes. Ce sera le 20, ça démarre le 22 mai, 23, 24, et le 25, mais n'hésitez pas, hein, venez amener vos enfants, venez voir un peu toutes ces techs. On a besoin de ces nouvelles forces aussi de compétences et c'est l'occasion de voir un peu tout ce que les entreprises font et de donner envie de venir vers cet univers de la technologie. Donc du 22 au 25 mai, VivaTech, et nous y serons, hein, bien entendu, avec BFM Business, avec Tech & Co. On aura des plateaux là-bas en direct. Voilà, c'est facile d'attraper au vol tous ces invités et de parler de tous ces sujets. Voilà. Merci d'avoir été avec
Merci
nous.
Beaucoup.
Allez, tout de suite, on rejoint notre journaliste pour notre chronique Tech & Co avec Sylvain Trinel.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Sylvain, bonsoir.
Bonsoir.
Sylvain Trinel, journaliste Tech & Co. Alors, on va s'intéresser à Windows 10. Alors, non pas pour verser une petite larme, parce que non, justement, Windows 10 continue à être utilisé par les entreprises.
Toujours.
Et Microsoft aimerait que ça bouge un peu. Et donc, du coup, a décidé, les patchs de sécurité, ce sera payant.
Exactement. Alors, retenez bien la date. C'est le 14 octobre 2025, dans un tout petit peu plus d'un an. Windows 10 s'éteindra de sa belle mort. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, mais en tout cas, de sa belle mort, puisque Microsoft, il l'a déjà annoncé, il stopperait complètement, officiellement en tout cas, le support de son système d'exploitation qui va avoir 10 ans déjà. À partir de cette date, si vous êtes un particulier ou un professionnel, les patchs de sécurité, vous le disiez, ils seront payants, sachant qu'ils ne concerneront que les failles de sécurité critiques. Attention, alors la première année, c'est $61. La deuxième année, donc dès 2026 et jusqu'à 2027, ça pourra atteindre jusqu'à $244. C'est beaucoup. Un montant évidemment très dissuasif, à l'image un petit peu des prix des tickets de métro pour les JO. Ça sert
on va pas reprendre ce que dit Valérie Pécresse, mais oui.
Ça sert surtout à pousser les irréductibles utilisateurs de Windows 10 à enfin passer à la version actuelle de Windows. Bon, cette nécessité, elle se heurte surtout à des problèmes de compatibilité, notamment en entreprise, plus globalement au coût que ça représente, notamment pour les professionnels.
Oui, parce qu'on a quand même beaucoup d'entreprises qui continuent à utiliser Windows 10. Ce qui est surprenant, c'est que Microsoft prend cette décision. Alors, certes, on parle de 2025, c'est ce que tu as dit, Sylvain. On a un peu de temps pour se retourner, mais quand même, ça prend du temps aussi les migrations. Mais c'est une annonce qui tombe mal, alors que Microsoft est accusé de ne pas prendre au sérieux. Ils ont été pris dans un piratage par des Chinois en janvier. Là, en ce moment, c'est pas le vent sont pas très favorables pour Microsoft, qui est un des gros acteurs de la cyber. Je crois que ses chiffres d'affaires 10-12 milliards.
Exactement. Dans un rapport de 34 pages, le groupe de travail pour une meilleure sécurité aux États-Unis a relevé une cascade d'erreurs de la part de Microsoft en matière de sécurité sur ces technologies dans le nuage. Ça aurait permis à des pirates informatiques chinois de s'introduire notamment au sein de mails de hauts fonctionnaires de l'État américain, mais aussi de responsables de Microsoft, c'est pas rien. Alors le rapport, il décrit des pratiques médiocres, une culture laxiste au sein de l'entreprise carrément, et même un manque de sincérité, les mots sont assez durs, alors même que Microsoft est responsable des services essentiels en matière de sécurité nationale. Bon, avant de vouloir faire plier les retardataires, Microsoft ferait peut-être mieux de nettoyer un petit peu dans sa porte.
Oui, c'est ce que l'on dit souvent. Merci Sylvain Trinel, journaliste Tech & Co. Et bien entendu, cette information-là, comme beaucoup d'autres, je vous conseille d'aller évidemment faire un tour sur Tech & Co pour retrouver toutes nos actus, toutes les news de la tech. Ça bouge tout le temps, il y en a plein. Merci encore Sylvain. Allez, on va parler, Amazon Go. C'est tout de suite sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne, décryptage.
Décryptage avec ce clap de fin pour certains des magasins Amazon, les magasins Amazon sans caisse. On en parle avec Franck Rosenthal. Bonsoir Franck.
Bonsoir Frédéric.
Merci d'être avec nous, expert dans la grande distribution, dans le marketing, le commerce. C'est la fin de ces magasins sans caisse. Rapidement, Amazon avait racheté une chaîne de magasins Whole Food Market, alors similaire un peu à nos Biocoop, qui ont amélioré. Il y avait les Amazon Fresh, Amazon Go, et puis ils se sont dit, ça va être un de nos laboratoires, pourquoi pas. Alors les caisses automatiques, oui, mais ils étaient allés beaucoup plus loin. C'était les magasins sans caisse, on passe avec son panier, on prend les produits, et puis on sort, on a l'impression qu'on n'a pas payé, mais non, on a un compte Amazon, bien entendu, mais une fois qu'on est sorti du magasin, on a soi-disant été repéré, et tous les produits nous sont facturés automatiquement. Sauf que là, on apprend que cette expérience, elle ne marche pas si bien et qu'elle marche tellement bizarrement qu'on a même des Indiens, des techniciens indiens qui visionnaient un peu sur les caméras pour essayer de retrouver tout ça. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé.
Alors, en fait, ce qui s'est passé, si on regarde ce qui se passait sur Amazon Go, le gros avantage, c'était la fluidité pour le client.
Voilà, plus cet instant de friction pendant au moment du paiement.
Voilà. C'est-à-dire, je m'identifiais à l'entrée, au lieu de payer à la sortie, dans les magasins traditionnels, je m'identifiais à l'entrée, et puis après, je prenais les produits que je voulais, et je repartais directement. Donc ça, ils avaient innové sur ce principe-là. La question qu'on pouvait se poser à l'époque, on était en 2018 quand ils ont fait ça, ils ont commencé par Seattle, et il s'est dit à l'époque, c'est pas Amazon qui l'a dit, mais il y a beaucoup d'analystes qui ont dit ça, qu'il y aurait 2000 magasins de proximité sur Amazon Go. Juste avant leur annonce, il restait une quinzaine de magasins de proximité Amazon Go, seulement dans quatre villes américaines, donc New York, Chicago, Seattle et San Francisco. Et en fait, ils en ont eu au maximum une trentaine, 30 à 40.
Déjà,
ils n'ont jamais atteint l'ambition qui pouvait être atteinte. Et pourquoi, en fait, ils ne l'ont pas atteinte? Non pas parce que la technologie ne marchait pas, même si derrière, en fait, il y a des confirmations de ce qui se disait, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs déjà sur le fait que les Indiens à distance géraient par le système des caméras les reçus après qui étaient envoyés aux clients. Mmh. En fait. Et d'où le décalage du temps. En fait, au moment où vous quittez le magasin pour faire, vous avez fait vos courses, il est par exemple 19h, et le moment où vous allez recevoir le reçu, il peut s'écouler du temps. Alors sur les magasins de proximité, comme l'assortiment il est court, c'est-à-dire vous avez peu de références, ça allait assez vite. Moi, j'avais testé ça, et en gros, on était entre 5 à 10 minutes après avoir quitté le magasin sur le reçu que vous receviez. Sur Amazon Fresh, c'est la version supermarché, qui est à peu près 3 à 4
000 mètres carrés. Qui est assez grande, hein. Enfin,
moi, voilà, c'est à peu près 3 000, 4 000 mètres carrés, quoi, en fait. Donc, ça correspond à des gros intermarchés en France, si on fait le parallèle avec la taille. Là, moi, j'avais testé l'année dernière dans le New Jersey, deux fois de suite, et j'étais une fois à 3 heures pour recevoir le reçu, et une fois à 4 heures. Et ce qui pose d'ailleurs des problèmes en termes de sécurité bancaire, parce que le moment où vous quittez le magasin, c'est le moment où la transaction passe, et le moment où elle est validée par votre banque, c'est-à-dire le moment où vous allez recevoir le reçu, il s'écoule du temps, et donc la banque bloque.
Oui.
En fait, voilà. Donc il y avait plein de problèmes par rapport à ça, et puis il y avait surtout des problèmes d'expérience client, parce que quand vous avez le reçu 4 heures après, et que vous avez quitté, vous êtes par exemple à 100
km, et qu'on se rend compte qu'il y a une erreur.
Et que vous vous rendez compte qu'il y a une erreur. Alors vous pouvez appeler Amazon. Et vous pouvez appeler leur service client. Bon, ça, ils étaient assez efficaces là-dessus. Mmh. Et ils corrigeaient les erreurs et ils sont à l'écoute de leurs clients. Donc ça, ils le font plutôt bien. Mais c'est quand même pas idéal. C'est quand même pas idéal de quitter un magasin alimentaire, de pas savoir combien on a dépensé et d'avoir le reçu 3 ou 4 heures après. Et donc, en fait, si on prend ça sur Amazon Fresh et si on prend Amazon Go, ils ont apporté une réelle innovation technologique. Mais cette innovation technologique, elle a pas rencontré tout simplement le succès des consommateurs.
Oui. C'est surtout ça.
Et alors,
et qui est le sel, l'ADN chez Amazon, c'est la satisfaction client, l'expérience utilisateur.
Voilà. Alors quand ils lancent Prime, par exemple, ils font une révolution sur les programmes de fidélité. Cette révolution, elle a été suivie par leurs clients. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un véritable avantage. Et bon, on dit qu'aux États-Unis, ils ont 170 millions d'abonnés à Prime. Donc c'est une vraie révolution qui a été suivie, sur laquelle ils ont apporté énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y a eu une vraie disruption, un vrai changement. Oui.
Paiement one click.
Voilà.
Et puis après, on est abonné au service vidéo.
Le streaming, tout ce qui est la photo, tous les avantages qu'il peut y avoir autour. Et c'est un gros avantage pour eux dans le commerce, parce que quand ils sont en frontal contre des magasins spécialisés, quand ils ont les abonnés Prime, qui vont pas payer par exemple de frais de livraison, et que vous allez sur un site sur un magasin spécialisé, par exemple un site français au moment des jouets à Noël, si vous êtes abonné à Prime, ils ont un vrai avantage concurrentiel. Et donc sur certaines choses, évidemment, ils ont fait la différence. Sur ce plan là ça a pas été suffisant dans l'alimentaire, que ça soit en proximité avec Amazon Go, ou que ça soit en supermarché avec Amazon Fresh, pour faire la différence et se dire, c'est la raison qui va me conduire à choisir ce magasin. Et donc, en fait, les gens n'ont jamais fait, les Américains n'ont jamais fait ce choix-là.
Mais en fait, tu dis, c'était une trentaine de magasins, c'est quelque part resté à l'état d'expérimentation.
Exactement.
Ils se sont dit, allez, on laisse, on tourne, et puis bon, le jour.
Et alors, en fait, maintenant, il y a cette annonce.
C'est pas forcément comme un échec, quelque part.
Non, c'est pas forcément comme un échec. Parce que, en fait, l'échec du déploiement de Amazon Fresh, il faut revenir à peu près un an en arrière, quand ils se décident à geler le concept. Pourquoi ? Parce que c'était essentiellement un supermarché avec que de la technologie et pas d'humain à l'intérieur. Où vous imposiez aux clients les choix technologiques de s'identifier, de payer avec la main, par exemple, avec Amazon One. Mais il n'y avait que de la technologie, de discuter. Quand vous aviez une question, par exemple, où se trouve la moutarde ? Basique, vous étiez obligé de demander à l'assistant vocal Alexa, quoi, en fait. Donc, personne que vous croisiez en magasin. Donc, extrêmement froid. Ça n'a pas plu aux clients. Amazon, donc ça, on est en janvier-février 2023, donc un peu plus d'un an. Ils annoncent qu'ils arrêtent le déploiement de Amazon Fresh. Et alors, moi, j'ai vu, il y a une quinzaine de jours, j'étais aux États-Unis, et j'ai vu le nouveau concept de Amazon Fresh, avant qu'ils fassent cette annonce sur Just Walk Out. Et en fait, tout a changé. Et alors ça, il faut saluer l'habileté et la rapidité d'Amazon pour être réactif. Ils ont changé tout le concept. C'est-à-dire que là où on avait un showroom de technologie avec des produits alimentaires, mais d'abord un showroom de technologie, on a aujourd'hui tous les codes du supermarché, où vous avez des produits frais, des fruits et légumes, des stands marché, et vous n'avez pas d'obligation sur la technologie. C'est-à-dire vous utilisez le chariot connecté, le dashcart d'Amazon, ou pas. Vous avez des chariots traditionnels. Vous avez à l'entrée, vous pouvez vous identifier ou pas. Suivant que vous avez pris le chariot connecté, vous avez une ligne qui est réservée pour quitter le magasin au chariot connecté, où vous pouvez payer en caisse automatique.
C'est l'expérience client.
Voilà,
qu'est-ce qui est le plus simple pour vous ?
Voilà, qu'est-ce qui est le plus simple ? Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, c'est aussi simple quand vous rentrez dans un magasin comme ça. Moi, j'étais à l'ouverture, il est 8h du matin. Il n'y avait personne, il n'y avait que les employés d'Amazon. Le gain de temps, si j'avais été suivi par les caméras de Just for Lockout, il est franchement très faible puisqu'il n'y avait pas d'attente en caisse. Mm-hmm. Donc voilà. Donc moi, je m'identifie avec ma carte de crédit, je rentre dans le magasin, je paye après en caisse automatique et c'est très simple.
Puis je pense qu'en plus, il y a ce phénomène et que tu connais bien parce que tu es vraiment cet expert de la grande distribution, le vol aussi j'ai pas parlé tous des voleurs dans là, mais le vol, l'oubli, quand il n'y a personne dans le magasin.
Oui.
On peut être un peu plus tenté que alors, dans d'autres.
Oui, il y a peut-être ça. Alors après, moi, je pense qu'il y a une vraie raison derrière, qui est une raison plus stratégique. C'est que si on revient quelques années en arrière, il y a l'essor du retail média. Et ça, je pense que derrière, le choix d'Amazon d'abandonner la technologie Just for Lockout, qui est quand même coûteuse, parce que ce qui a été dit, c'est que les opérateurs en Inde...
C'est sortez simplement, hein, si je traduis en français.
Voilà. Donc c'est sortez simplement. Et puis, alors, cette technologie pour envoyer les reçus derrière, et qui était regardé et visionné en Inde, et qui au départ devait être, c'était la version d'Amazon, à peu près 54 sur 1000, et puis en fait, ce qui a été annoncé par certains médias, c'était 700 cas sur 1000, donc c'est pas du tout le même ratio. Mm-hmm. Amazon a démenti le fait que ça soit 700 cas sur 1000, mais bon, de toute façon, c'est quand même assez coûteux, même si, évidemment, sur l'Inde, ils ont choisi des opérateurs
indiens pour enlever juste un point de friction et pour pas avoir l'expérience client au final.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, enfin aujourd'hui et plus demain, ils vont passer par le chariot connecté, le dashcart. Et le dashcart, il va permettre à l'intérieur, c'est-à-dire vous allez faire vos courses, vous allez mettre directement dans le chariot, c'est lui qui va vous donner en temps réel.
Un peu comme on voit, enfin moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est chez Decathlon. Hein. Ouais. On met ses produits, tout.
Voilà. Et on connaît directement le montant. Donc ça, c'est plus facile aussi pour faire ses courses. Mm-hmm. Et surtout, comme il y a un écran qui fait à peu près cette taille-là, c'est en gros une tablette, vous allez pouvoir avoir de la pub. C'est-à-dire que si je choisis, par exemple, des chips, je veux pas citer une marque, mais on va me dire, il y a le soda qui va avec, et on peut me passer un film de pub, ou on peut me passer une annonce en fonction de ce que j'ai mis réellement dans mon chariot. Et donc ça, c'est un véritable enjeu, parce que si on revient 10 ans en arrière aux États-Unis, donc je regardais les investissements, il y a 10 ans, sur le retail média, on était à 10 milliards de dollars au total. Sur la pub télé, on était à 60 milliards. 10 ans après, en 2024, la pub télé reste à 60 milliards de dollars, et le retail média est passé à 60 milliards de dollars aussi. Donc, et comme Amazon a une très forte part de marché, ils ont intérêt à avoir tous les supports de retail media.
Eh bien voilà, on a tous les enjeux en tête et on comprend un peu tous ces enjeux qui ne sont pas que des enjeux technologiques. Hein, mais c'était important d'en parler ce soir. Le clap de fin pour les magasins Amazon sans caisse. Il n'y en avait pas 1000 hein, comme prévu. Il y en avait beaucoup, beaucoup moins. Merci Franck Rosenthal, expert de la grande distribution, du marketing et du commerce. Merci de nous avoir suivis. 20h, 21h30, il est 21h30. Donc Tech & Co, c'est fini. On se retrouve lundi soir, bien entendu, avec François Sorel. Ne manquez pas, évidemment, les podcasts, les replays. Ce week-end Tech & Co Business, on parlera aussi du salon AWS et puis bien entendu notre chaîne Tech & Co TV et De quoi je me mêle avec Anthony Morel. Excellente soirée sur BFM Business.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.